Entends ce matin les cris de nos cœurs, les joies de nos cœurs. Entends ce matin tout ce que nos cœurs disent. Et viens, viens Seigneur, viens nous parler encore ce matin. Nous voulons t'offrir des sacrifices de louange. Sois notre amour.
Seigneur, tu sais nos craintes.
entends le chant d'amour que nous t'adressons ce matin.
Je t'emmène
Honneur à toi seul, Jésus.
qu'il est bon, qu'il est agréable d'être dans ta présence, Seigneur. Nous voulons proclamer avec assurance que nous te verrons un jour face à face. Merci déjà parce que tu nous donnes la possibilité et la grâce de te contempler dans ta présence. Au nom de Jésus.
Seigneur, pour être honnête, Seigneur, je sais qu'un jour nos yeux te verront. Et pourtant, des fois, j'arrive pas à imaginer la grandeur de ce moment, la profondeur de ton amour qui, Seigneur, a tout accompli pour nous, pour que l'on soit sauvé, pour que on puisse te retrouver. C'est tellement bon, Seigneur, de se savoir aimé, entouré, accompagné dans chacun de nos pas. Seigneur, tu es là. Tu es là. Merci pour ta présence. Merci pour l'action de ton esprit. Merci pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix qui nous sauve. Qui nous sauve. À toi soit toute la gloire, mon Dieu. Amen. Je ne sais pas quelle semaine vous avez passé, quel temps vous avez eu, mais là, de savoir, rien que dans les chants, on est pardonné, on est libéré, Dieu est avec nous. Et puis un jour on le verra, c'est pas une bonne nouvelle ça? Là déjà ça, waouh! Merci beaucoup l'équipe de Louange, on peut les accompagner dans un applaudissement. Alors messieurs, j'ai pas une très bonne nouvelle pour vous. C'est que la semaine prochaine, il devait avoir un rassemblement Ironman et ce rassemblement est malheureusement annulé. Il est reporté, il sera reporté ultérieurement, on vous communiquera la date bien sûr, c'est suite à un impératif indépendant de la volonté de notre orateur la conférence ne pourra pas avoir lieu. Donc, vous serez remboursé. Et je pense que quelques-uns ont déjà eu le remboursement. D'ici 15 jours, normalement, tout le monde sera remboursé. Toutes nos excuses. Vous savez que l'Église, c'est un moment de vie, pas que le dimanche matin, mais dans la semaine. Et il y a des dates qui sont importantes à retenir. Les trois premières, c'est le lundi, mardi, mercredi, 3, 4, 5 novembre, où nous aurons ici, dans la grande salle, un temps de jeûne et de prière. Alors, s'il y en a qui ne peuvent pas jeûner, ne vous empêchez pas de venir prier. Venez, c'est des moments forts, c'est des moments intenses que l'on passe ensemble en communion fraternelle où on se fait du bien et où c'est bon de se retrouver. Et parfois, on n'a pas la force de prier, mais de se retrouver tous ensemble, en famille, eh bien, ça fait du bien et ça réconforte. Il y a une autre date, le dimanche 16 novembre. Nous aurons une célébration Église persécutée. Souvent, dans la routine, on vient le dimanche et on se dit « Allez, c'est bon, c'est le dimanche, c'est le moment où je vais à l'église et tout ça. » Et puis, on ne réalise pas que dans le monde, des gens ne peuvent pas faire la même chose que nous librement. Et là, on va prendre un temps justement pour être encore encouragés nous-mêmes, alors que c'est eux qui ont besoin d'être encouragés. Et nous allons encore être édifiés par ce moment-là. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous avons ensemble un rendez-vous très important. Mathieu en a parlé le dimanche 21 septembre. Ce rendez-vous important, c'est l'Assemblée Générale Extraordinaire, le dimanche 16 novembre aussi, mais à 11h35, après la célébration des églises persécutées. À cette Assemblée Générale Extraordinaire, qui est invitée ? Ce sont tous les membres administratifs de l'EPI. Alors vraiment, merci à tous d'être présents. C'est vraiment une date clé et importante pour notre Église. Pourquoi nous faisons cette Assemblée Générale Extraordinaire ? On en a parlé plusieurs fois et vous le savez, il y a eu des changements dans l'équipe pastorale depuis quelque temps. Anne-Clémence et Jérôme sont partis à Montpellier. Et puis moi-même, depuis le mois de mars, j'ai été reconnue en tant que pasteur local. Ça a fait du changement, ça a fait du mouvement. Et avec le conseil d'église, tous ensemble, nous avons discerné le besoin de renforcer l'équipe. Nous avons besoin de renforcer l'équipe. Et bien sûr, après des temps de prière, des temps d'échange, des temps de discussion, il y a une candidate qui a été pressentie pour le poste d'assistante pastorale. Et on vous en a déjà parlé. Cette personne, c'est Victoria Logel. Je pense que certains la connaissent. Voici sa photo. Donc Victoria, vous le savez, elle est mariée avec Philippe. Elle a deux enfants qui sont grands maintenant, Lucie et Baptiste. Et son histoire à l'EPI, elle remonte bien sûr à son enfance. Elle a grandi, elle a servi, elle a témoigné. Et elle a travaillé dans les groupes de mamans pendant pour prière avec les adolescents. Elle a soutenu activement notre église et elle sert encore aujourd'hui. Elle a traversé aussi des épreuves qui ont fortifié sa foi en Jésus et qui ont donné un bon témoignage à certains d'entre vous. Et aujourd'hui, nous croyons qu'elle est appelée à devenir notre future assistante pastorale. Alors à cette assemblée générale extraordinaire, comment se procurer toutes les informations ? Vous avez au fond de la salle des tables et vous avez à disposition le pack de convocation. Il y a la convocation, il y a le programme, il y a aussi la fiche de poste, il y a la présentation complète de Victoria Logel. Comme ça, vous savez tout le processus, comment nous avons procédé du début à la fin, les réflexions. Il faut venir tôt parce que l'émargement commence à 9h30. Et pour que la décision soit validée, il faut au moins les deux tiers de présence des membres de l'EPI. Et la majorité de 60% de votes favorables à cette candidature. Alors, c'est un moment fort, vraiment, pour l'avenir de l'Église. Parce que ensemble, nous écrivons la suite de l'EPI ensemble. Nous allons nous avancer. Donc nous demandons vraiment, si vous ne pouvez pas venir, vous avez aussi la possibilité de donner procuration. Et tout est dans le pack à la fin, au fond de la salle. Vous le savez, depuis quelque temps, Nous avons lancé un financement participatif. Je pense que vous les avez vus sur les réseaux sociaux et tout ça, les amis de l'EPI. Et on veut vraiment vous remercier d'avoir joué le jeu. Alors merci, c'est vrai, pour ceux qui ont participé financièrement, mais merci aussi à ceux qui ont participé et relayé le lien, parce que cela a permis à une église de donner aussi. Cela a permis à des amis de l'EPI qui viennent plus depuis certains temps de donner aussi. Alors nous voulons vraiment encore aujourd'hui vous remercier d'avoir joué le jeu, de transférer le lien, de partager sur vos réseaux, et nous vous encourageons encore à le faire encore et encore et encore. Et durant cette campagne participative, nous vous faisons des petites vidéos dont ce matin vous allez voir la première.
Aujourd'hui, l'église de l'EPI, c'est 800 participants réguliers qui vivent la vie de l'église ensemble et qui participent à des services solidaires. Et on a l'obligation de pouvoir répondre à des exigences des commissions de sécurité courant 2026. Je m'appelle Mathieu Thoman, je suis membre participant de la vie de l'église de l'EPI depuis plus de 10 ans maintenant. Et j'en suis le pasteur principal avec toute une équipe pastorale depuis environ 2 ans.
Bonjour, je m'appelle Michel Schneider. J'ai été pasteur principal de 1999 à 2023 de l'église de l'EPI. Et aujourd'hui, je fais partie de l'équipe pastorale.
Aujourd'hui, l'église de l'EPI est munie d'un bâtiment de plus de 4000 m². Un bâtiment de 4000 m², c'est plein d'opportunités, mais c'est aussi un énorme défi pour que ce soit un lieu qui soit vraiment adapté, fonctionnel, réhabilité pour les besoins de la communauté. Pour nous, à l'église de l'EPI, cette notion de bâtiment, c'est vraiment un lieu de convergence déjà de tout ce qui peut se vivre même en dehors des cultes. Ça peut aller du mariage jusqu'à l'enterrement. C'est aussi un lieu où on vient concrètement apporter un soutien à différents types de personnes. On a tout un travail solidaire avec des distributions de colis alimentaires, des cours de français langue étrangère. On a accueilli dans ce lieu des tables rondes sur des sujets d'actualité. Une autre rencontre aussi qu'il y a eu, c'est les cultes en commun, où plusieurs églises évangéliques se rassemblent dans un même lieu pour un temps dédié, pour vivre de l'unité ensemble.
Alors ça faisait quelques années que la commission de sécurité nous avait invités à faire des travaux, et on a commencé donc à alimenter un fonds financier pour pouvoir faire face aux dépenses. On a fait faire au préalable toutes sortes d'études déjà pour qu'on puisse avoir des éléments concrets en main et que je puisse passer le relais. Et Mathieu a les épaules assez solides pour prendre le relais et mener à bien tout ce projet.
Pour pouvoir répondre aux exigences des commissions de sécurité, on se rend compte que là, ça va se compter en millions d'euros. Mais en même temps, une belle opportunité de continuer à être une église, non seulement qui accueille, mais au-delà de ça, qui continue à apporter de la vie, qui continue à vraiment être force de proposition pour des projets positifs pour la ville de Strasbourg.
J'ai eu à cœur vraiment d'aller vers les élus, de partager le projet, et les élus ont très vite compris que ce lieu accueillait beaucoup de monde, que c'était un lieu qui devait vivre. Et je me souviens d'un moment précis où un élu était à côté de moi. À un moment donné, dans le déroulement du culte, il fallait se prendre la main, les les autres, et cet élu me serrait la main. Et à la fin, on échange quelques mots, et l'élu de me dire « Je viens pas seulement parce que je suis un représentant institutionnel, je viens d'abord pour moi, et j'en ai besoin. »
Depuis plusieurs années maintenant, la communauté s'est mobilisée, et je veux vraiment les remercier pour cela. Et en même temps, on appelle tous les amis de l'EPI. Nous vous invitons à nous soutenir. Vous pouvez vous rendre sur notre site Eloasso. Vous pouvez prier pour ce projet et vous pouvez être relais de cette campagne par le biais de vos réseaux sociaux pour que l'église de l'EPI continue d'être une communauté, un espace de rencontre pour plusieurs cultures, plusieurs générations présentes et futures.
La première vidéo que nous avons présentée et que vous avez diffusée, et nous vous remercions de le refaire encore et encore. Et voici la première vidéo que nous voulons vous partager.
Salut à tous, je vous espère en forme. On parle en ce moment de l'espace de rencontre, un pôle qui est important, c'est le pôle 030 ans. Tous les dimanches matins, nous accueillons 80 à 100 mineurs. Nous les accompagnons dans leur foi, nous les écoutons, nous partageons de bons moments. Il y a aussi, le samedi soir, le groupe de jeunes, d'une trentaine de jeunes qui se réunit pour partager leur foi, pour avoir des moments fun aussi, discuter de nos défis et prier ensemble. Et la pépite, la nouveauté de l'année, c'est un espace pour les enfants à besoins spécifiques. Et nous nous retrouvons dans ce lieu exactement aujourd'hui. Il y a des jeux adaptés à eux, où il y a aussi un petit coin s'ils ont besoin de se retrouver isolés. Ils ont le petit tipi avec de beaux coussins pour s'enfermer et se retrouver tranquillement isolés. Et aussi, s'ils ont besoin d'être cajolés, entourés, de se sentir là comme dans un cocon, il y a le super hamac. Alors si tu veux en découvrir plus, ou peut-être même nous soutenir, je t'invite à cliquer sur le lien d'en dessous et je te dis à bientôt.
Voilà, je découvre en même temps que vous la vidéo. Je me suis retenue de ne pas faire une sieste et de rester dans le hamac. Alors je vais inviter Raymond Pierre qui va nous apporter le message de Dieu. Est-ce que vous voulez bien qu'on prie ensemble ? Seigneur, te remercions Père pour tout ce que nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui. Et nous te remercions encore de ce que tu as mis dans le cœur de Raymond Pierre. Te prions vraiment pour l'accompagner, pour vraiment, Seigneur, mettre les mots dans sa bouche, Seigneur, les expressions. Et que nos cœurs soient attentifs à ta parole. Seigneur, nous avons soif encore de t'entendre, soif encore d'apprendre, peut-être d'être repris, Seigneur mon Dieu, mais je sais que tu feras tout par amour. À toi soit toute la gloire, mon Dieu. Amen.
Amen. Amen, bonjour à tous. Je suis heureux de continuer avec vous la série qu'on a entamée maintenant il y a quelques semaines sur l'étude de l'Épître aux Hébreux, cette série qui s'appelle « De l'esquisse à la réalité ». Et on va poursuivre ce matin. On a vu que les destinataires de cette lettre faisaient face à de la pression, à la tentation de revenir aux anciens enseignements, à leurs anciens rituels, finalement de rejeter leur foi chrétienne pour espérer obtenir le ciel. Et ça, ça peut se comprendre lorsque nos fondements, lorsque nos sécurités, elles sont ébranlées. On peut avoir la fâcheuse tendance à vouloir se raccrocher à quelque chose de visible, de palpable, de tangible, pour pouvoir être tranquillisé. Vous savez, j'ai une phobie de l'avion. Alors, il y a quelques semaines, je suis allé à un mariage donc de nos amis qui sont juste devant là, en Italie, à Naples, hein, donc des membres de l'EPI qui se sont mariés à Naples. Et le problème, c'est que j'étais avec quelques Français de l'église et moi, juste avant de monter dans l'avion, je dis « bon, peut-être qu'on va retourner voir Jésus rapidement ». Et je suis en stress tout le voyage, tant que je suis en l'air, j'attends qu'une chose, c'est que le train d'atterrissage s'ouvre, que les roues touchent le tarmac et là je me dis « ça y est, on est sauvé ». On peut être comme ça parfois, une phobie. Et vous savez, c'était difficile pour eux de placer leur foi dans la confiance d'un homme qui a donné sa vie à la croix pour eux, de croire que ça pouvait les sauver, alors qu'autour d'eux, ils avaient le temple de Jérusalem, avec les sacrificateurs réels qui opéraient des sacrifices à l'autel. Ils pouvaient le voir et ça pouvait peut-être avoir l'air plus concret pour eux. Plus concret pour des chrétiens qui étaient déstabilisés dans leur foi à ce moment-là. Et c'est cet enjeu-là que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a compris. Et c'est pourquoi il va s'appliquer dans toute cette lettre à démontrer par les passages de l'Ancien Testament combien Jésus était l'accomplissement ultime de tous ces rituels visibles qui finalement n'étaient que les ombres et les réalités d'une chose bien plus grande. Ils n'étaient que les esquisses. Il a vu le danger qui guettait celles et ceux qui voudraient faire marche arrière, retourner en arrière quant à leur foi, leur confiance en Dieu. Alors pour ceux qui prennent le train en cours de route et pas l'avion, vous pouvez récupérer, vous pouvez visionner les messages sur notre chaîne YouTube pour reprendre la série dans son intégralité. Alors après avoir vu dans le premier message que Jésus était l'ultime révélation, et on voit ça dans les chapitres 1 et 2, qu'ensuite Jésus était l'ultime serviteur avec les chapitres 3 et 4, ce matin on va regarder à Jésus, notre ultime médiateur. Et je suis vraiment reconnaissant pour la louange de ce matin qui nous a préparés à fixer nos regards sur Jésus. Peu importe les circonstances qu'on peut vivre ou traverser. Je ne sais pas la semaine que vous avez vécue, moi ce n'était pas simple, mais j'ai voulu fixer mes regards sur Jésus. Le médiateur. Alors on va s'arrêter aujourd'hui notamment sur les chapitres 4 et 5 et on va commencer la lecture et avec le premier point, en Jésus, Dieu est accessible. En Jésus, Dieu est accessible. Hébreux 4, 14 à 16, on nous dit « Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Matthieu a terminé la semaine dernière en nous rappelant l'appel que l'auteur de cette lettre nous adresse de ne pas endurcir nos cœurs. Vous savez, nos cœurs, c'est le siège de nos pensées, de nos actions, de nos motivations. Et que cet appel n'était pas adressé à des gens qui ne croyaient pas, mais bien à des disciples qui s'étaient engagés à marcher avec Dieu et qui risquaient de dériver, de s'éloigner. Et c'était son cœur de rappeler les fondations sûres de notre foi et du salut qui en découle, afin de pouvoir amener les lecteurs plus loin, s'appuyer sur Jésus seul. Et c'est ce que l'auteur va dire ce matin en disant que Jésus est notre souverain grand sacrificateur. Vous savez, le rôle d'un sacrificateur était d'être un médiateur, un intermédiaire entre Dieu et les hommes en offrant des sacrifices pour eux. Le théologien R. Albert Moller, dans son commentaire, dira la chose suivante. Lorsque le grand prêtre accomplissait des sacrifices, brûlait de l'encens, offrait des dons et accomplissait d'autres tâches sacerdotales, il le faisait au nom d'Israël, il le faisait à la place du peuple. Et ce qui est intéressant, c'est que le texte nous dit « Nous avons un grand souverain sacrificateur ». Mes amis, il nous appartient. Il est à nous. Et c'est ce que le verbe grec est employé ici pour dire « nous avons dit ». C'est le verbe « echein » qui signifie « détenir, posséder ». Vous savez, généralement, on est comblé par ce que nous possédons de manière terrestre. J'ai un bon job. J'ai une belle maison. J'ai un bon emploi. J'ai une bonne épouse. J'ai une belle famille. Ça vient nous sécuriser. Et ici, l'auteur nous dit que de manière céleste, nous avons un grand souverain sacrificateur. Il est à nous. Nous pouvons nous appuyer sur lui. Amen. Dans son commentaire sur l'Épître aux Hébreux, le célèbre théologien Andrew Murray a dit « Vous avez, quel bien précieux entre tous, vous avez un grand sacrificateur. Il est à vous, bien à vous, entièrement à vous. Vous pouvez avoir recours à lui, à tout ce qu'il est et à tout ce qu'il a. Vous confiez en lui pour tous vos besoins. Vous réclamez de lui comme votre grand souverain sacrificateur pour qu'il vous amène à Dieu. » Mes amis, Dieu est accessible. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et dire « Dieu est accessible ce matin ?» Il est là. Il est accessible. Il est à nous. Et c'est ce que l'auteur souligne ici. Vous savez, dans l'ancienne alliance, les gens ordinaires comme vous et moi ne pouvaient pas entrer à l'intérieur de la tente de la rencontre, à l'intérieur du tabernacle, ne pouvaient pas entrer dans le temple. C'était l'accès à Dieu n'était pas ouvert de cette manière pour tous. Seuls les prêtres qui exerçaient leur service à l'intérieur pouvait le faire, mais ne pouvait pas franchir le voile. Et seulement le grand souverain sacrificateur, une fois par an, lors du jour des expiations, pouvait entrer dans la présence de Dieu. Vous savez, c'est dans cet endroit, dans le Saint des Saints, que se trouvait le propitiatoire qui était posé sur l'arche de l'Alliance qui contenait les 10 commandements. Et la Bible nous dit que le propitiatoire, c'était comme le trône de Dieu. Et ce texte d'Hébreu nous dit qu'en traversant les cieux, Jésus s'est assis sur le trône de la grâce. Et ce, définitivement. Définitivement. Et grâce à ça, il nous ouvre la porte, il ouvre l'accès à quiconque se confie en lui. Mes amis, le trône de la grâce nous est ouvert ce matin. Est-ce qu'on prend conscience de cela ? Est-ce qu'on prend conscience de cela? Et mes amis, ce ne sont pas nos faiblesses et nos tentations qui peuvent nous empêcher de nous approcher de Dieu. Elles ne sont pas un problème pour lui. Il sait, il connaît nos difficultés, il sait ce par quoi nous pouvons passer. Jésus a vécu le rejet. Jésus a vécu les blessures, il a vécu les souffrances, il a vécu les moqueries, il a vécu les larmes, il a vécu la tristesse, il a vécu l'abandon et il a vécu la tentation de l'ennemi. Le texte nous dit qu'il a été tenté, éprouvé en tout point. Il sait ce que ça fait. Il sait ce qu'on vit. Il sait ce qu'on traverse. Mais en rien, il n'a péché. Vous savez, Jésus a été victime du péché des autres. Et il n'a pas répondu à ce péché en cédant à l'amertume, à la vengeance ou à la violence. Il n'est pas devenu à son tour auteur du péché. Le théologien Roy Essien, avec le livre de référence qu'on vous a cité depuis le début de cette série, dit « Il n'y a pas d'atteinte aux droits de l'homme, d'indignité, dont ses frères aient souffert qu'il n'ait souffert lui aussi sur la croix. » Peut-être que tu vis une injustice, peut-être à cause de ta culture, à cause de ta couleur de peau, etc. Jésus sait ce que ça fait. Jésus sait ce que ça fait. Jésus a été aussi tenté par la séduction de Satan qui lui a proposé les richesses et le pouvoir sans la souffrance de la croix. Mais il n'a pas succombé à l'appel des sirènes. Il n'a pas succombé à cette petite voix qui lui disait « Je te donne tout, il suffit juste que tu te prosternes devant moi. » Est-ce que vous avez déjà pensé à ce que ça a produit chez Jésus, le fait de ne pas tomber sous la pression ? J'imagine que dans cette salle, on connaît tous la puissance et la pression qui s'exerce sur nous lorsque nous sommes tentés. Vous savez, cette pulsion qui va nous pousser et qui est en train de batailler avec notre foi, qui dit « non, faut pas que je cède ». Ça nous pousse, ça peut nous écraser lorsque toutes nos pensées commencent à s'agiter à l'intérieur de nous. Par exemple, comme lorsque la colère monte, lorsqu'on vit une injustice. Vous connaissez cette sensation quand la colère, elle monte là. Et on n'a envie qu'une chose, c'est d'y céder pour pouvoir être délivré là. Imaginez-vous que Jésus a subi cette pression constante sans jamais y céder. Le poids que nous on vit, et puis qu'on vit un espèce de soulagement au moment où on libère le péché quelque part pendant un instant jusqu'à ce que la culpabilité prenne le relais. Mais Jésus, lui, a vécu la pression constante qui le poussait à mal agir, à mal réagir. Il vivait cette pression sans jamais y céder. S'il y a bien quelqu'un qui nous comprend, mes amis, c'est bien lui. C'est bien lui. Et il l'a fait pour toi et pour moi. Il a été au bout de lui-même pour que tu puisses expérimenter la liberté et la délivrance aujourd'hui. Mes amis, il n'est pas insensible à ce qu'on vit, à ce qu'on traverse. Et je crois qu'il veut encore manifester sa compassion et sa miséricorde. Jésus exerce sa grâce et sa miséricorde pour quiconque le recherche. Warren Wiersbe, la miséricorde signifie que Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons, tandis que la grâce signifie qu'il nous donne ce que nous ne méritons pas. Vous savez, lorsque dans l'Ancien Testament, un Israélite était tenté, il ne pouvait pas courir pour essayer d'atteindre le souverain sacrificateur, ce n'était pas accessible pour lui. Il ne pouvait pas y aller comme ça. Il ne pouvait pas non plus dire « Ok, je vais rentrer dans le Saint des Saints, dans la présence de Dieu pour pouvoir expérimenter cette libération. » Mais nous, mes amis, nous pouvons nous rendre auprès de notre souverain sacrificateur à tout moment et en toutes circonstances pour y trouver l'aide dont nous avons besoin. Je crois ce matin qu'il y a une opportunité, il y a une provision et il y a un timing de Dieu dans ce passage. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Il y a une provision, il y a une opportunité pour quiconque dans cette salle, peu importe dans quel état tu es venu à cette célébration. Il y a une opportunité de Dieu ce matin de t'approcher avec assurance du trône de la grâce pour être secouru dans le timing de Dieu au moment opportun. Amen. Mes amis, c'est par la foi, la confiance en Christ, en ce que Dieu a dit, que ces choses sont accessibles. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin que tes épreuves ne sont pas une occasion d'abandonner ou de lâcher la main de Dieu. Au contraire, approche-toi de lui. Il est là, il est accessible, il est présent. Et je crois que ce matin, Dieu nous appelle à ne pas nous priver du trône de la grâce. Et toute la conduite de la louange, censée être concertée, fait que ça pointait vers ça. S'approcher de Dieu, peu importe la condition dans laquelle on est venu. Deuxième point que je veux soulever avec vous ce matin, c'est que Dieu est pour l'homme, pas contre lui. On continue la lecture au chapitre 5, versets 4 et 6. Personne, on parle du rôle de souverain sacrificateur, ne peut s'attribuer l'honneur de cette charge à moins d'être appelé par Dieu comme l'a été Aaron. Christ non plus ne s'est pas attribué la gloire de devenir grand prêtre. Il la tient de celui qui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Il dit aussi ailleurs, « Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchizedek. » On note que les souverains sacrificateurs ne pouvaient pas s'attribuer cette fonction par eux-mêmes. On ne pouvait pas dire un matin, « Tiens, je vais devenir souverain sacrificateur. Je vais faire ça, ça a l'air cool comme job. » Personne ne pouvait s'attribuer cette fonction. C'est Dieu qui le nommait à cette charge. Et ça, c'est super intéressant. Pourquoi ? Souvent, on pense que Dieu, il est quelque part au ciel en train de comptabiliser les points de nos échecs pour pouvoir préparer la punition à cause de nos erreurs. On pense, des fois, on dissocie un peu Jésus du Père. Ça arrive à quelqu'un, ça ? Un peu comme si c'était un père fouettard, là, en train de compter un peu toutes les erreurs pour dire « Maintenant, je ne vais pas te louper, mon gaillard. » On s'imagine ça. Mais non, ce texte nous dit que de toute éternité, Dieu le Père a désiré nous offrir, m'offrir un souverain sacrificateur pour un pécheur comme moi. Amen. C'est la vérité, mes amis, fondamentale de l'évangile qui est annoncée ici. Dieu est pour nous, pas contre nous. Et en accomplissant son service, Jésus n'est pas fidèle envers nous. Alors oui, il nous aime, mais il n'est pas fidèle envers nous, mes amis. Il est fidèle envers l'appel du Père qui lui a confié cette mission. Et il l'est pour toujours. Et ça peut casser cette petite voix dans notre tête qui nous dit que finalement, il y aurait un Dieu méchant dans l'Ancien Testament et puis un Dieu gentil dans le Nouveau Testament. Mes amis, c'est le même. C'est le Dieu de l'Ancien qui a prévu de toute éternité d'envoyer ce sacrificateur pour toujours. L'auteur de la lettre aux Hébreux ne fait que citer le psaume 110, verset 4, qui constitue l'appel de cette promesse. Et le psaume 110 dit « L'Éternel l'a juré et il ne se rétractera pas ». Il n'y a pas de changement chez Dieu. Il l'a juré. C'est comme ça que je vais agir. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchizedek. Ce psaume qui annonçait la venue et la mission du Messie, du Sauveur. C'est par lui que par anticipation, les croyants de l'Ancien Testament sont sauvés. C'est en Jésus, au travers de ce que Jésus allait faire plus tard à la croix. Et c'est également par lui, Jésus, après sa venue et sa vie sur terre et sa vie donnée, que nous sommes également sauvés. Mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi, c'est ce que le Nouveau Testament va répéter à plusieurs reprises. Prenons un texte du prophète Habacuc. Mon juste vivra par la foi. Mes amis, il n'y a pas de véritable salut en aucun autre que Jésus. Pas de véritable salut. Le fait que cette prêtrise soit pour toujours, elle est mentionnée plus de 6 fois dans la lettre aux Hébreux. Ça nous montre, mes amis, la sécurité ce matin que nous pouvons avoir. La sécurité que nous pouvons avoir, la prêtrise de Jésus, elle est éternelle. Étant sacrificateur pour l'éternité, mes amis, Jésus donne au peuple un salut éternel. Il y a une sécurité dans ton salut ce matin. Andrew Murray dira, notre grande sécurité réside dans le fait que c'est le Père qui a établi le Fils souverain sacrificateur, que c'est l'amour de ce Dieu contre qui nous avons péché, qui a donné le Fils, que c'est la volonté et la puissance de Dieu qui ont décidé et effectué ce grand salut. L'auteur de l'Épître aux Hébreux poursuivra dans le chapitre 7, versets 25-26, nous disant « Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait, saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs, est plus élevé que le ciel. » Roy Essien, l'auteur de l'esquisse à la réalité, parlant de Jésus, dit qu'il n'échouera jamais dans le travail que le Père lui a confié. Prendre soin des intérêts des saints, c'est-à-dire les disciples, les plus faibles devant lui. Peu importe s'ils ont souvent l'impression de chuter, peu importe s'ils sont déçus d'eux-mêmes, ils ne manqueront jamais de trouver un ami pour les représenter devant le tribunal. C'est pas beau ce matin ? Est-ce que ça encourage quelqu'un ce matin ? Quel repos pour nos âmes. Mes amis, Jésus ne fait pas les 35 heures. Jésus ne fait pas grève. Il ne prend pas la retraite à 62, 64 et il n'y a pas de réforme jusqu'à 67. Jusqu'au bout, il assure sa mission. Jusqu'au bout. sa prêtrise ne s'arrêtera pas. Jésus est fidèle envers celui qu'il a nommé pour chacun d'entre nous. Et ça, c'est encore appuyé par la comparaison entre la prêtrise de Aaron et la prêtrise de Melchisédek dans notre texte. Et cette comparaison, elle est intéressante puisqu'il évoque un personnage mystérieux qu'on ne retrouve que deux fois dans l'Ancien Testament. On le voit dans la Genèse et on le voit dans le psaume, dans les psaumes. On apprend que dans Genèse que Melchisédek était un sacrificateur du Dieu très haut. Mais avant l'Alliance, avant tout ça, donc certainement même d'un peuple étranger, il était sacrificateur du Dieu très haut. Et lorsque Abraham remporta la bataille contre les rois qui avaient capturé son neveu Lot, on apprend du texte qu'il offra la dîme de tout. Il donna tout en générosité, en signe au ciel, au travers de Melchisédek. Vous savez, il n'y a pas un seul sacrificateur dans l'Ancien Testament qui n'a exercé son ministère pour l'éternité. Tous sont morts et ont transmis leur mission à leur successeur. Mais on voit que Jésus appartient à un ordre différent. Les prêtres appartenaient à l'ordre de Aaron. Frère de Moïse, Jésus appartient à l'ordre de Melchisédek. Son nom signifie roi de justice. Il était le roi de la ville de Salem, roi de paix. Et la particularité de ce personnage, c'est qu'on ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas, il n'a pas de généalogie dans la Bible et il n'y a aucune trace de sa mort. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira, on ne lui connaît ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie, mais rendu semblable au Fils de Dieu, il reste prêtre pour toujours. Nous avons là, dans l'Ancien Testament, une préfiguration de Jésus. Préfiguration de Christ, à la fois roi et prêtre pour toujours. Il n'y a pas de date de péremption. Il n'y a pas de date limite de consommation de la grâce de Jésus, mes amis. Pas de date de péremption. Vous savez que Jésus n'aurait pas pu être prêtre sur terre. Il n'était pas de la lignée d'Aaron. Mais mes amis, Jésus a été le sacrifice de la lignée d'Aaron en donnant sa vie pour pouvoir devenir le sacrificateur de la lignée de Melchisédek pour toujours. Il a été le sacrifice pour pouvoir devenir notre intermédiaire, pour pouvoir devenir notre médiateur, celui qui nous secourt. Roy Essien dira encore la chose suivante, si le sang de Jésus a été suffisant pour le ramener au ciel après qu'il a été fait péché sur la croix. Vous savez, c'est ce que Paul dira, que Jésus a littéralement été fait péché. Toutes nos erreurs, nos fautes, nos mensonges, notre amertume, notre vengeance et toutes ces choses de l'humanité entière a été sur Christ à la croix. Il l'a porté. Si malgré tout ça, son sang l'a ramené au ciel, il est assurément suffisant pour me donner la paix quant à mes péchés personnels et rétablir ma communion avec Dieu. Mes amis, lorsqu'on est enfant de Dieu, on l'est pour toujours. Alors oui, parfois notre relation avec Dieu, elle est brouillée, comme on peut avoir une relation brouillée avec ses parents, mais on n'en demeure pas moins enfant de nos parents. C'est la relation qui peut être brouillée, mais pas notre statut d'enfant. Dieu a fait de nous ses enfants par l'intermédiaire de Jésus. Notre salut, il est solide, mes amis. On ne perd pas son salut comme on fait tomber un capuchon de stylo. Et qu'on ramasse et qu'on remet, et qu'on ramasse et qu'on remet. Notre salut, il est solide. Voilà notre espérance. Voilà l'espérance du disciple de Jésus. Ceci étant dit, il y a un danger. Le danger, ça serait de perdre de vue ses vérités ou de les négliger. À partir du verset 11 du chapitre 5 jusqu'au chapitre 6 verset 20, qu'on n'aura pas le temps de traiter ce matin, l'auteur va alerter les croyants face à l'apathie spirituelle. Et c'est mon troisième point ce matin, attention à la paresse. Attention à la paresse, on continue la lecture. Nous avons beaucoup à dire à ce sujet et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous devriez, avec le temps, être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide, elle est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien ou ce qui est mal. Le terme « lent » qui est employé ici dans l'Épître aux Hébreux parle de paresse spirituelle. Ça décrit un état d'apathie, de la nonchalance, qui va empêcher tout développement de la personne, de sa spiritualité. Et on voit que l'auteur, il aimerait aller plus loin dans les enseignements sur le sacerdoce de Christ au ciel, mais il peut pas. Il peut pas parce que ces derniers ne sont pas prêts à aller plus loin. Alors il s'agit pas ici d'un manque d'intelligence, mais bien de paresse spirituelle. Il s'agit de flemme. L'auteur va reprocher à ses destinataires d'être encore au lait, alors qu'ils devraient être des enseignants, des communicateurs, des didascalos pour l'autre. Et ça nous enseigne deux choses. La paresse entraîne toujours un manque de discernement. C'est ce qu'on vient de lire. Vous savez, si le lait il est important pour la croissance d'un enfant, il l'est beaucoup moins pour un adulte. Il y en a qui ont du mal à digérer le lait dans cette salle ? Ouais, il y a quelques mains qui se lèvent. En fait, il y a moins de 40% des adultes qui sont encore aptes à digérer le lactose, de garder cette capacité à digérer le lactose. C'est normal, parce que c'est pour les enfants à la base. Et eux, ils étaient incapables d'écouter la parole de Dieu. Ils étaient incapables de la recevoir et d'en vivre, incapables de discerner entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge. Mes amis, c'est en appliquant la parole de Dieu, on parle d'expérience dans le passage, dans nos vies, que nous exerçons nos sens spirituels et que nous développons notre discernement spirituel. Warren Wiersbe dira, le manque de discernement est caractéristique d'un enfant. Un bébé, par exemple, met en bouche tout ce qu'il trouve. Il y a des parents qui stressent des fois quand le bébé ramasse un petit peu tout sur la moquette de l'église, là. Elle est belle, hein, la moquette, hein. C'est pour ça qu'il faut faire des travaux. De même, un chrétien qui n'a pas atteint la maturité écoutera n'importe quelle prédication sans être capable de discerner si oui ou non elle est en accord avec les Écritures. Vous savez, mes amis, on a accès aux meilleurs commentaires, aux meilleurs théologiens. On a des dizaines de versions de la Bible, mais on est paresseux. Malheureusement, aujourd'hui, les gens se nourrissent plus à coups de YouTube que d'ouvrir la parole. Que juste prendre une Bible d'étude et d'aller lire les commentaires en bas qui expliquent le sens du texte, qui vont faire sortir le sens du texte. Et on est tellement nourri à coups de YouTube qu'on est même incapable de savoir, juste parce que quelqu'un aura saupoudré quelques versets bibliques pour soutenir son point, on va dire Alléluia. Je vous vois sur YouTube et sur les réseaux sociaux des fois à partager des choses qu'il ne faudrait pas. Plaisanterie. Au pôle formation de l'EPI, que ce soit des cours baptême jusqu'à nos cours INSTE, Institut de théologie par extension, notre cœur de mission, c'est d'apprendre aux étudiants les règles de base de l'interprétation biblique. Comment on interprète les textes difficiles à la lumière des textes clairs? Comment on interprète l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament? Par exemple, combien on n'utilise pas un texte hors de son contexte, mais on va aller juste regarder ce qui se passe autour et le pourquoi du comment. On va regarder comment avoir une lecture centrée sur Jésus et sa grâce. Et on le voit dans toute cette épître, l'auteur de l'épître aux Hébreux montre comment il utilise l'Ancien Testament pour pointer sur Jésus et son royaume spirituel. Donc on leur apprend à ne pas faire une lecture géopolitique de l'Écriture, mais une lecture christocentrique qui pointe sur le Messie. On leur apprend aussi à utiliser les bons outils, les dictionnaires, les concordances, les commentaires. Comment aller chercher l'information par des théologiens solides et reconnus pour pouvoir bâtir leur foi et leur compréhension, afin qu'ils puissent distinguer ce qui est bon ou mauvais et de ne pas être emportés à tout vent de doctrine, comme Paul le dira à Timothée. Emportés à tout vent de doctrine, attachés à des fables. Vous savez, les fables, c'est les belles histoires. Et des fois, on aimerait plein de belles histoires. Mais la vie chrétienne, c'est Dieu avec nous dans le bon comme dans le mauvais. Et Michel en parlera mieux que moi à la fin de cette série. J'étais heureux jeudi soir, on avait le cours INSTE avec le groupe qui a démarré. Puis un des étudiants a pris la parole, il a dit, mais quand on est un petit peu lecteur de la Bible quand même, il dit, on sent qu'il y a quelque chose qui sonne faux. dans certains enseignements de l'évangile de prospérité. Il dit, quand tu as lu un petit peu ta Bible, là, tu te rends compte que même ceux qui ont vécu des grands exploits, ils ont eu des grandes souffrances. Et il dit, on sent quand ça sonne faux, quand on te vend des promesses, mais que derrière, il n'y a pas le résultat. Et ça, ça m'a encouragé, parce que je me dis, ben, l'objectif, il est atteint. À l'EPI, c'est d'équiper les gens pour qu'ils soient autonomes dans leur compréhension, pas indépendants, mais autonomes dans leur lecture de la Bible, dans la compréhension du texte, ce que ça veut dire pour leur vie et comment ils doivent regarder ce qui se passe autour d'eux. On les aide également à regarder à ce qui se passe dans le monde à la lumière du message de l'Évangile et de la mission que Dieu nous a confiée. Et ça m'amène à ma deuxième partie sur ce qu'entraîne la paresse, c'est qu'elle ne donne pas de fruits. Vous savez, l'une des choses les plus difficiles que doivent apprendre les enfants, c'est de partager. Vous savez, quand tu donnes un jouet à un enfant devant un autre, et puis que tu as l'autre enfant qui court pour lui arracher des mains. Ou alors tu donnes un jouet à ton enfant, puis il y a son copain qui arrive et tu lui dis « prête-le ». Mais il ne veut pas le prêter, parce que c'est un petit égoïste. C'est un petit égoïste qui a besoin de la grâce de Jésus. Alors bien sûr, c'est un enfant. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il ne veut pas prêter. Pourquoi ? Parce que l'enfant, il est centré sur lui, sur ses besoins, sur lui-même et pas sur ce qui se passe autour. Le problème, c'est que là, on parle d'adultes. Et les destinataires de la lettre avaient été sauvés depuis assez longtemps pour être capables, le texte nous dit, d'enseigner, de partager la vérité de Dieu avec les autres. Mais au lieu de les aider, ils étaient centrés sur eux et sur leurs problèmes. Ils ne partageaient pas le message concernant le médiateur qui a traversé les cieux pour venir opérer des changements de vie, des libérations autour d'eux et au travers d'eux. Ma question ce matin, alors qu'on termine et je vais inviter l'équipe à s'approcher, c'est où est-ce que j'en suis personnellement ? Est-ce que je réagis comme un enfant, même après des années à suivre Jésus ? Est-ce que je suis encore passionné de découvrir les pépites, d'approfondir ma compréhension qu'il y a dans la parole de Dieu, dans qui est Jésus et dans son amour pour moi ? Ou est-ce que je trouve ennuyeux de venir à l'église ? Je commence à en avoir marre d'entendre ces gars-là prêcher tous les dimanches, et avec Anne en plus. On en a marre de venir à l'EPI. En fait, les autres chrétiens, ils ne m'intéressent pas là. Je n'ai pas envie de vivre de relations. Les autres croyants ne m'intéressent pas. Est-ce que c'est ton état d'esprit ce matin ? Mes amis, lorsqu'on connaît Jésus comme notre ultime médiateur, on ne regarde plus en arrière à notre ancienne vie, à nos anciennes croyances, mais on se laisse renouveler par celui qui est vivant, celui qui est sur le trône à la droite de Dieu le Père, à celui qui opère un salut, une délivrance, comme réponse à tout péché et toute accusation. Roy Esson dira, cela signifie que nous pouvons être vrais et honnêtes. Vous vous souvenez, Mathieu, la citation de la semaine dernière qui disait, ce qui est important, c'est que même après 40 ans de vie chrétienne, un péché soit toujours appelé péché. On peut être vrai et appeler péché le péché. Nous n'avons plus la pression de devoir prétendre que nous sommes meilleurs que ce que nous sommes réellement. Mais nous pouvons faire l'expérience de nombreuses douces délivrances de la grâce. Nous approcher de lui chaque jour, sachant que le chemin est accessible, sachant que Dieu est pour moi et pas contre moi, peut me permettre de passer à un niveau supérieur dans ma spiritualité, dans ma vie de foi, et de commencer à avoir le regard de Jésus sur les situations, sur ce qui se passe autour de nous, sur ce qui prend place dans nos vies personnelles, dans nos familles, dans la société. Le regard de Jésus sur les gens et sur la vie. J'aimerais pouvoir faire un appel ce matin. Peut-être tu te sens coupable et tu sens ce matin que Dieu te travaille à dire, mais il n'y a pas de péché assez lourd que tu aies fait que ma croix ne puisse porter. Tu te sens coupable ce matin et pourtant Dieu t'invite à t'approcher du trône de la grâce, alors que j'aimerais qu'on puisse le faire. Il n'y a rien de magique ce matin. Mais quand on a compris qu'on peut s'approcher avec assurance du trône de la grâce pour être secouru, c'est ce que Dieu va faire ce matin dans ce lieu. Alors on va fermer les yeux, puis cesser ton cas ce matin. Je t'invite juste à te lever à ta place. Te lever à ta place pour dire, oui Seigneur, j'ai besoin encore d'être au bénéfice. Je veux m'approcher du trône de la grâce ce matin pour être secouru. Seigneur, je te prie pour toutes celles et ceux qui se lèvent. Et vraiment, j'aimerais vous inviter à faire un pas de foi ce matin. Le texte nous dit, approchons-nous et on va le faire. Je vous invite à venir devant. Et il y a Michel, il y a Jacques, il y a l'équipe d'Écoute et Prière qui va s'approcher, s'il vous plaît, pour venir prier pour les besoins. Il y a beaucoup de gens qui se lèvent. Je vous invite à faire ce pas de foi d'avancer. Dieu est pour vous, pas contre vous ce matin. Et il veut faire une différence. Alors je vous invite à avancer alors que l'équipe va venir. On va prier avec vous, non comme quelque chose de magique, mais comme une main d'association pour dire on est avec toi et on vient devant le trône de la grâce. Parce que je crois que Jésus veut encore opérer des libérations ce matin. Merci Seigneur pour ce que tu veux faire. Merci parce que ton amour nous dépasse. Merci Père parce que tu as été fidèle envers tes enfants en envoyant ce que tu avais de plus précieux, Jésus-Christ, pour donner sa vie à la croix. Et merci Jésus de ce que tu es fidèle, non à nous, mais à la volonté de ton Père Céleste encore ce matin. Je te prie Seigneur pour que des fardeaux de culpabilité tombent maintenant au nom de Jésus. Alors qu'on s'approche avec toi, je te prie Seigneur pour que les uns et les autres puissent vivre la liberté des enfants de Dieu. Merci Père parce que nos noms sont inscrits dans ton livre de vie. Je te prie Seigneur que là où il y a la culpabilité, mensonge, tentation, pression de Satan, que ça puisse reculer par la vérité de Dieu ce matin. Oh Seigneur, manifeste ta grâce encore Père. Manifeste ta grâce au milieu de nous. Je te prie, esprit de paix, esprit de consolation, de venir fortifier encore ce matin dans ce lieu. Que les mensonges de l'ennemi tombent au nom de Jésus. C'est pour la liberté que tu as fait de nous, des hommes et des femmes libres. C'est pour ça que tu veux nous affranchir encore. Et c'est ta vérité qui le fait. Seigneur, on veut proclamer ta vérité dans ce lieu ce matin. Que les voix de l'accusateur cessent et reculent au nom de Jésus. Seigneur, je te prie de souffler, Seigneur, sur toutes celles et ceux qui ont fait ce pas d'approcher avec foi du trône de la grâce. On veut persévérer dans la confiance en toi. C'est pas la puissance de notre foi qui est importante ce matin, mais l'objet de notre foi. Et l'objet de notre foi, c'est celui qui est le capitaine de l'avion, Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Je te prie de souffler ce matin encore dans ce lieu, Père éternel. Viens étendre ta main alors qu'on est dans un temps de prière. Viens étendre ta main encore sur toutes celles et ceux qui se sont avancés. Et on va redéclarer ensemble, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Et tu peux le voir dès à présent par la foi ce matin. Il est présent au milieu de nous par son esprit. Je te prie de venir souffler encore Père éternel ce matin dans ce lieu. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia.
Qu'un jour mes yeux verront.
On peut acclamer le Seigneur. Merci Raymond Pierre. Et oui, merci Jésus, merci Seigneur, c'est sûr. Mais tu as été un instrument entre ses mains et c'est bon de pouvoir entendre encore parler de lui. Vraiment, soyez bénis durant cette semaine. Gardez précieusement ce que vous avez reçu. Vivez-le fortement. Et que Dieu vous bénisse et vous accompagne durant toute cette semaine. Et on salue bien nos internautes et à dimanche prochain.